Curiosité, votre quotidienne d'actu locale. Et ce mercredi 5 avril, nous allons vous parler de la grève des éboueurs. Nous recevons pour ça Aurélie et Yves, s'il arrive, il est sur la route, de la sociale nantaise. Ils ont participé à plusieurs blocages sur le site de Laitier ainsi qu'à l'opération Poubelle Jaune. Ils témoignent de leur mobilisation depuis le début de la réforme des retraites. Et c'est avec Perrine. Bonjour Perrine.
Salut.
Dans une deuxième partie, nous recevons Karim Amour, le directeur artistique d'Urban Voice, un projet porté par l'association Cité et Monde et qui réunit chaque printemps plusieurs musiciens et artistes. On en saura plus tout à l'heure. Il est au micro de Chloé. Bonjour Chloé.
Salut.
Vous aurez aussi évidemment la chronique photo de Suvan en dernière partie d'émission. Salut Suvan.
Salut.
Mais avant ça, nous commençons par la chronique Quatrième Mur avec Morgane. Salut Morgane.
Salut.
Et on t'écoute tout de suite.
Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Alors déjà, sachez que j'ai risqué ma vie ce soir pour venir faire cette chronique. J'ai failli me faire renverser par un scooter et Perrine en était mort.
Tout à fait, tout à fait.
Donc voilà, donc je suis là ce soir. Vraiment, cette chronique va devoir compter.
Hein. Heureusement, toi, tu es là.
Hein Antoine, bref, avant de commencer cette chronique, je tiens quand même à faire un petit trigger warning. Ce qui va suivre ne va peut-être pas être une partie de plaisir pour toutes celles et ceux qui sont sensibles aux propos sur l'avortement. Comme la réalisation d'Audrey Diwan, je compte pas faire dans la dentelle avec mes propos, donc je préfère prévenir. Alors ce soir, c'est vrai que ça va pas être très fun, mais on va parler de L'Événement, un film qui est sorti en 2021, adaptation du roman d'Annie Ernaux. C'est l'histoire de la jeune Anne, tombée enceinte par accident en 1963 en France, mais elle ne veut pas de cet enfant. Voilà, le résumé est assez rapide parce qu'on, je pense, hein, on a tous deviné ce que ça impliquait en 1963 en France de ne pas vouloir de son bébé. Anne est une brillante élève en lettres, son avenir s'annonce tout aussi génial donc, mais avoir un enfant vient tout chambouler. À l'époque, enfant égale femme au foyer et tout le package lessive, cuisine, ménage qui va avec. Imaginez-vous à sa place, complètement désemparée et sans avenir à cause d'un accident. Et il n'y avait pas de solution à ce moment-là, enfin pas légale. En tout cas. Mais Anne ne va pas se laisser faire. Peu importe les obstacles auxquels elle devra faire face, elle avortera et profitera de sa jeunesse normalement. Elle ne veut pas ne pas avoir d'enfant du tout, au contraire, même, elle le dit dans le film, mais elle veut avoir le temps de vivre sa vie avant. Alors elle va tout essayer, en commençant par aller chez un gynécologue, qui refusera quasiment de l'entendre en comprenant qu'elle demande un avortement. Est-ce parce qu'il est contre ou qu'il craint qu'on lui tape sur les doigts? Nous n'aurons pas la réponse pendant le film. Parce que oui, en 1963, un avortement était passible de prison pour la femme et le médecin l'ayant pratiqué. Puis quand elle comprend que quasiment personne ne veut l'aider, même ses meilleurs amis qui craignent des répercussions, elle va commencer un long chemin solitaire et très douloureux. Douloureux physiquement et mentalement, contre une société qui fait tout pour l'empêcher de commettre un acte qualifié de meurtre à l'époque. Et c'est à ce moment d'ailleurs qu'on commence un peu à se tordre sur son siège, à serrer les poings, à grincer les dents. Enfin pour moi en tout cas. C'est un film qui m'a physiquement fait du mal. Je pense qu'il est impossible de rester de marbre devant de telles scènes, qu'on soit un homme ou une femme, une mère, un père, une fille ou un fils. La violence et l'agonie qu'Anne est prête à traverser pour sauver son rêve sont impossibles à décrire. Mais c'est également la preuve de son courage et de sa bravoure. Face à un gouvernement et à des médecins qui n'étaient pas prêts à entendre la voix des femmes, elle a su crier plus fort qu'eux pour qu'on l'écoute. Il n'y avait pas de contraception à l'époque, ce n'est qu'en 1967 en fait qu'elle a été autorisée par la loi. Et c'est ensuite qu'en 1975 que la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, aka l'IVG, est adoptée. Et pour ça, on remercie encore Simone Veil, sans elle on serait peut-être encore dans le même cacane. Oh, mais attendez! On me dit à l'oreillette que ce n'est pas le cas partout. Un certain pays défendant le progrès serait apparemment retourné dans le passé ces derniers mois. Vous l'avez sûrement vu venir, c'est les États-Unis. Alors voilà une autre raison pour laquelle il est important de voir ce film qui vous restera à jamais dans la mémoire. Parce qu'il fait malheureusement écho avec l'actualité aujourd'hui, alors qu'il ne devrait pas. Dites-vous bien qu'en ce moment même, il y a sûrement une femme qui traverse les États en voiture, seule, effrayée à l'idée de se faire prendre, pour aller avorter à l'autre bout du pays parce que le sien lui interdit. Et ça représente quasiment la moitié du territoire. Je vous le rappelle, non, on n'est plus en 1950. Allez, on peut arrêter les conneries. Hein. On est en 2023, je crois qu'il est temps de ressortir les pancartes pro-IVG et d'aller manifester. My body, my choice, ça ne changera pas, va falloir s'y faire. Et merci Morgane. Donc allez courir voir l'événement, un film plus que nécessaire. Et tout de suite, on va faire une pause musicale avec l'artiste, avec le groupe Souléance et le morceau Aquarelle. Toujours sur Prune dans l'émission Curiosité, votre quotidienne d'actu locale. Et on va passer finalement à l'entretien au Zoom. Voilà, c'est des aléas du direct. Du coup, on reçoit Karim Amour, le directeur artistique d'Urban Voice. Donc, il est en train de s'installer voilà, dans quelques minutes. Et du coup, il va être au micro de Chloé. Et tout de suite, on va pouvoir lancer le jingle. Et ça sera l'heure du Zoom.
Curiosité, Le Zoom Actu.
Bonjour Karim Amour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète, arrangeur, orchestrateur et vous avez été le directeur artistique de Urban Voice pendant 11 années. Vous avez ainsi formé plus de 10 000 choristes amateurs. En effet, ce projet artistique réunit chaque printemps des chanteurs amateurs à des musiciens professionnels pour une création originale. Urban Voice met en avant les musiques du monde avec des artistes venus de quatre coins du globe. Et cette année, comme en 2022, ce sont les sonorités du Maghreb qui sont à l'honneur, avec à la coécriture la poétesse algérienne Samira Negrouche et à la musique l'orchestre Narmoucha. Et ce, dans une de vos créations nommée « D'où que tu viennes ». Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet Urban Voice ? Quel est le but de cette immense chorale d'amateurs ?
Bonjour, salut aux auditeurs, salut à vous, super équipe, bravo. Vous êtes pétillant, vous avez la pêche. Super, très bien, ça fait plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis peut-être porté par une certitude, c'est que s'il existe sur cette terre un moyen, dans l'art et la culture qui permet de relier les gens, c'est bien la voix humaine, c'est bien le chant. Pour sa simplicité d'approche, pour le fait que le corps soit totalement impliqué, par le fait que c'est le corps instrument, le corps du chanteur, le fait qu'en remettant sa respiration en place pour chanter, on remet aussi ses idées en place. Donc sa relation sociale, c'est ce qui permet de monter des chœurs très grands. C'est qu'en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, c'est plus facile pour moi d'avoir 300 chanteurs en répétition que 15. Parce que l'humain nourrit et est créatif, donc fatalement dans une dynamique, je dirais, gagnant-gagnant. Imaginez un chanteur émet un son et en retour, ce qu'il entend, c'est 300 personnes. Fatalement, il se sent rempli. Et même on pourrait même étudier en médecine ce que ça fait au niveau chimique, mais c'est un vrai plaisir en fait. Donc en partant du principe, un, de s'exprimer, deux, de prendre beaucoup de plaisir en étant nombreux, ce projet tient, c'est la preuve. Hein. Je veux dire, si ça avait été un accident, on l'aurait fait deux fois. C'est la première fois, on peut s'excuser que c'est la première, mais pas la deuxième. et on ne l'aurait pas fait 11 fois, et avec en plus aujourd'hui une nouvelle dynamique.
Racontez-nous du coup comment se passent les formations, les séances de répétition de ces chanteurs amateurs. Comment ça se déroule? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Ce sont des véritables cours de chant?
Oui, véritables et de grande qualité. Vous avez vu comme je suis humble? D'abord parce que les gens avec lesquels je bosse sont super, c'est-à-dire qu'il y a une certaine bienveillance. On n'est pas dans un concours, alors qu'aujourd'hui tout est concours C, dirais-je. Concours ou C, même pourrions-nous dire, dans le sens où aujourd'hui pour chanter, il faut être le meilleur, tu fais du sport, il faut être le meilleur, etc. Alors que là, le but du jeu, c'est d'être tous ensemble, enfin de résonner ensemble. Je dis que ça se passe bien parce que aussi c'est partitionné, c'est-à-dire on prend en question d'abord la partie de l'instrument, vraiment comme les gammes, mais avant de faire des gammes, si vous imaginez un piano, s'il n'était pas bien réglé, vous ne pouvez pas travailler. Donc on règle l'alignement du corps, du souffle. Ça permet quelque part de déjà travailler le son du groupe. Puisqu'en fait, bon, je sais, ça va être un peu technique, mais vous allez me comprendre. Tout le monde sait ce qu'est l'empreinte digitale. Vous savez ce qu'est l'empreinte vocale. D'accord ? Comme l'empreinte des yeux, d'ailleurs. C'est unique à chaque personne. Et en fait, ce qui fait la richesse du chœur, c'est que chacun chante dans la détente, donc libère sa vraie identité, ou en tout cas s'approche de sa réelle identité vocale. Il ne va pas imiter un son, imiter une voix dans un style. Simplement, on lui demande juste d'émettre un son. Et la différence de toutes ces voix fait la richesse du chœur. C'est-à-dire, si tout le monde essayait de chanter de la même manière, ça ferait lever aucun poil, comme dirait l'autre. Ça ferait aucune émotion. Et donc, d'abord, c'est le souffle. On calibre le souffle, on ne fait pas de son. Ensuite, on met quelques notes. Et à la limite, les quelques notes, c'est un prétexte pour voir que tout fonctionne bien entre le souffle et le son. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? L'air, c'est l'air qui porte le son. Donc ensuite, on fait deux, trois notes. Il n'y a pas besoin de faire des gammes et des gammes. Et ensuite, on rentre dans le répertoire. Et l'apprentissage, là, c'est une méthode que j'ai... ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. Apprendre une mélodie, c'est très particulier parce qu'une mélodie, en fait, c'est un sujet, verbe et complément. Ça a des questions et des réponses. Il faut savoir décrypter une mélodie pour bien l'apprendre. Et la personne chope du coup des phrases qui sont cohérentes, les aligne les unes après les autres, les assemble, et les gens apprennent très très vite. C'est pour ça que si ça marche, c'est parce que les gens qui entrent ne ressortent pas. Ils viennent faire un premier essai, en général ils se rendent compte qu'ils y arrivent, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué, en fait. Et voilà. Et le cours est monté comme ça. D'abord, travailler sur la respiration, deux, quelques notes, quelques mélodies, puis on rentre dans le répertoire.
Cette année, vous voulez pousser l'aventure plus loin en dépassant les 1000 choristes. Est-ce que ce n'est pas difficile de préparer du coup autant de monde en relativement peu de temps, puisque vous n'avez que deux mois ?
Oui, En fait, l'idée de dépasser, en fait, on a déjà largement dépassé les 1000 choristes tout le temps. En fait, c'est l'idée, c'est que comme on communique beaucoup sur 1000 tout le temps, alors qu'aujourd'hui on atteint plutôt 1500, on se dit bah on va communiquer peut-être sur 2000. Donc ça veut rien dire. Le truc, c'est qu'aujourd'hui c'est même pas un problème. Moi, je pourrais réunir 10 000 chanteurs de la même manière. Le problème, c'est les lieux, parce qu'en fait physiquement, faut réunir les gens dans un cadre sécurisé. Bah oui, il y a des entrées-sorties dans une salle, etc. Si on habitait, avec des scies, on peut couper du bois, éventuellement ça réchauffe l'hiver, mais si on habitait peut-être sur d'autres latitudes, on pourrait faire des répés en extérieur, tout le temps. Là, peut-être qu'on pourrait facilement réunir tout un quartier à chanter, j'en sais rien. Mais la méthode fonctionne, donc voilà, c'est le challenge, c'est presque un joke. Vous voyez, c'est un truc de com, quoi, quelque part.
Et ces choristes amateurs, du coup, ce sont toutes sortes de gens. Vous avez une diversité de profils, parce que du coup, c'est accessible à n'importe qui, comme aux chanteurs de douche, comme les initiés.
Oui, en fait, la seule limite que j'ai, c'est les cordes vocales. Alors, quelqu'un qui est muet, clairement, je ne peux rien y faire. Par contre, tous les autres cas de figure, de beaux visages, même, on pourrait dire, plutôt que des cas de figure, ça marche, parce qu'en fait, je le redis, quand on sait calibrer sa respiration, on sait chanter. Et je pourrais vous en dire beaucoup, je pourrais faire une émission là-dessus, hein, au niveau de la méthode d'approche, des résultats réels et du système avec le cerveau, l'inconscient, le conscient, etc. Enfin, voilà. En fait, plus les personnes pensent qu'elles chantent mal, plus elles chanteront faux.
Voilà. Vous ne faites pas que chanter dans ces répétitions, puisque plus que de faire découvrir aux choristes nantais des artistes étrangers, vous leur expliquez aussi l'histoire de leur répertoire. En quoi c'est important pour vous ?
Ah bah parce que, bah imagine, tu apprends une chanson des années 50, début rock'n'roll, bah tu vas apprendre quelques chansons, tu vas pas apprendre tout le répertoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à travers le répertoire de comprendre l'époque. C'est pareil pour une culture. Tu apprends, j'ai une bêtise, le huahuanco dans la rumba cubaine, chose qu'on a étudiée. Bah on a voulu connaître aussi la columbia, le yambu, le cha-cha-cha, la guajira autour pour comprendre un peu de quoi tout ça se nourrit. Bah c'est comme aller visiter une ville. Imaginez, vous allez visiter un ami dans une ville. Bah vous avez envie de voir dans quel environnement il vit. Bah c'est pareil. Une chanson, on peut considérer comme un ami, mais il a plein de potes et plein de relations autour. Donc c'est ça l'aspect, le petit plus qui fait qu'on chante pas de la même manière en fait.
En 2017, pour aller plus loin dans l'étude des musiques du monde, vous proposez un voyage culturel dans le pays mis à l'honneur. C'est ainsi qu'en 2018, 500 Nantais s'envolent pour Cuba à la rencontre de 150 choristes havanais. Puis le défi est reconduit en 2019 en Andalousie, puis en 2022 au Maroc. Racontez-nous comment se sont passées ces rencontres, qu'est-ce qui était au programme de ces voyages ?
Eh ben, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir étudié un répertoire comme on a fait avec les choristes, une année pour se marrer, j'ai carrément balancé ça en répé. Je me souviens, il y avait 450 personnes. C'était une grosse salle. C'est lorsqu'on est sur les salles Nantes-Nord ou Nanterre, ce sont des belles salles qui nous accueillent. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui vient. Et du coup, je teste comme ça parce que quelqu'un m'avait soufflé. Ouais, on devrait aller à Cuba. Enfin, ils déliraient, les gens complètement fous. Ils sont plus fous que moi, je peux vous le dire. Enfin, je ne fais que faire, en fait, ce qui émane du collectif, et je dis ah ouais, chiche, qui serait prêt à venir à Cuba en octobre? Ça, c'était au début des répés, et là j'ai vu les trois quarts des mains se lever. J'ai dit, ah, il y a un truc, et du coup, de fil en aiguille, on a proposé ces voyages. J'ai proposé un triptyque pour trois continents, trois destinations, et surtout une sorte de flèche qui ramène un peu mes traditions, moi, en Afrique du Nord. Et cette flèche, elle part de Cuba, elle passait par Séville, musique arabe andalouse, vous voyez bien la logique du truc, Séville, langue espagnole comme Cuba, et on finissait sur les rives du Maghreb. Au départ, c'était l'Algérie. Et les voyages se passent de la manière suivante. On a un temps, des petits temps de répétition d'urban, mais en fait, les gens connaissent le répertoire. Moi, j'ai formé des gens sur place pour nous rejoindre, ce qui fait un lien humain merveilleux, parce qu'on a un cœur à chaque fois sur place. C'était 250, hein, pas 150 à Cuba. Okay. Et à Séville aussi. Alors imaginez, ça fait 750 personnes à Cuba qui ont chanté ensemble. Vous imaginez le délire. Et en plus, on fait un programme de concerts, de rencontres, de rumba, et on monte tout de A à Z. Donc il y a trois structures qui bossent. Il y a une structure voyagiste, une structure culturelle là-bas, et l'association Cité Monde qui passe l'information aux choristes, quoi.
Cette année, ce sont donc les sonorités du Maghreb qui sont à l'honneur. L'œuvre originale a été coécrite avec la poétesse algérienne Samira Negrouche et les choristes amateurs seront accompagnés par l'orchestre Narmoucha. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors, en fait, oui, je peux. Alors, ce que je peux vous dire surtout, c'est que l'œuvre qu'on a écrite l'année dernière, on l'a écrite collectivement avec Medina Souli. Medina Souli, c'est vraiment une star de la musique gnawa au Maroc. On est parti de sa basse, le Goumbri. On lui joue entre autres avec Titi Robin, Marcus Miller, Karim Ziad. Il est partout dans le monde. Enfin, c'est un artiste qui représente en fait la tradition marocaine et la modernité. Donc c'est un musicien aussi de jazz, de fusion, avec son instrument traditionnel. Et en fait, c'est avec lui qu'on a composé l'œuvre l'année dernière. Et cette année, on s'est dit, on passe à la deuxième couche. Ok. Et la deuxième couche, c'est d'avoir un orchestre. Boum. Et là, on a la chance que Medina Souli ait été en partenariat avec l'orchestre Marmoucha d'Amsterdam. Ils sont merveilleux, ils ont accepté le deal. Ils mettent aussi des moyens pour nous aider. Ils viendront tous en juillet, donc, jouer le répertoire de l'année dernière qui va durer encore une ou deux saisons. Je n'aurai pas le temps de trop vous en parler, mais on est parti à développer ce projet en fait, au niveau international. En Asie, au Maghreb, en Europe du Sud et en Europe de l'Est.
Super. Et si certains de nos auditeurs sont intéressés pour rejoindre l'aventure, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions et comment s'inscrire ?
Alors, les conditions humanoïdes, de base, d'accord ? Déjà, le truc. Et puis ensuite, pas d'âge, puisque moi j'ai vu des parents venir avec des enfants de 5-6 ans. On chante vraiment qu'à partir de 8-9 ans, en réalité, hein, pour rentrer dans un chœur comme celui-là. Et puis, bah, à la limite, je ne sais pas, j'ose pas demander aux personnes, mais tant qu'on est vaillant, on peut chanter. Et puis, pas de connaissances prérequises, puisque tout est appris sur place. À la limite, j'ai envie de dire, quelqu'un qui n'a jamais chanté et qui a envie d'apprendre, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de mauvais réflexe, c'est-à-dire de chanteur. En général, les gens qui n'ont jamais chanté, j'adore.
Je vous remercie, Karim Amour.
Merci à vous.
Karim Amour, qui, je rappelle, a été 11 ans directeur artistique de Urban Voice et qui est co-auteur du spectacle D'où que tu viennes, présenté cette année. La représentation, se sera les 1er et 2 juillet. Et pour participer à la chorale, c'est dès maintenant sur le site d'Urban Voice.
Et merci à Karim Amour d'être venu dans nos studios avec merci cette entrée fracassante que l'on vous a faite.
Je pensais pas.
Bon, vous êtes arrivé tout pile.
Bon, bah voilà. C'est bien.
Voilà, très bien.
Merci au bouchon d'enterre.
Et tout de suite, on va passer à la pause cadeau. Lola devrait arriver dans quelques minutes, en quelques secondes. Voilà, donc on va lancer le jingle pause cadeau et on va attendre que Lola arrive.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose d'emporter des places pour Friction avec Paloma Colombe à Trampo. Tentez de gagner les places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et on retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau Period Point Blank de Sabrina Balawel. C'est tout de suite sur Prune.
looking at your eyes. It's like looking at the mirror. So I've been chasing the stars for an answer. So looking at your eyes. It's like looking at the mirror. So I've been chasing the stars for.
Vous êtes toujours sur Prune 92 FM dans votre émission d'actualité locale Curiosité. Encore merci à Karim Amour d'être venu dans les studios de Prune. Si vous avez envie de pousser la chansonnette, vous pouvez vous inscrire sur le site urbanvoice.com. Et maintenant, c'est l'heure de notre grand entretien avec Perrine. Elle reçoit Aurélie de la Sociale Nantaise. C'est tout de suite sur Prune.
Curiosité. L'entretien.
Depuis janvier 2023, on assiste en France à un mouvement social d'une ampleur inédite. C'est la contestation d'une réforme des retraites passée en force par un gouvernement qui ne veut écouter personne. S'il veut marquer l'histoire, c'est déjà fait. Les mobilisations du 31 janvier et du 7 mars dernier ont été les plus grandes depuis des décennies. À Nantes même, la mobilisation n'a jamais été aussi forte depuis mai 68. Le gouvernement faisant la sourde oreille, les grèves s'intensifient et des blocages voient le jour un peu partout en France. Pour une meilleure compréhension, petit historique des armes institutionnelles utilisées dès début février par le gouvernement pour passer cette réforme, quoi qu'il en coûte. Grâce au 47.1, première procédure législative utilisée, le débat à l'Assemblée est réduit de moitié. Il passe de 40 à 20 jours et le texte est envoyé sans vote au Sénat. Grâce ensuite au 44.3, procédure dite de vote bloqué, le Sénat doit statuer sur un texte en bloc, c'est-à-dire un texte dans lequel seuls figurent les amendements proposés par le gouvernement. Le Sénat adopte le texte le 12 mars, la commission mixte paritaire le lui renvoie le 15 mars, le Sénat le réadopte le 16 mars. Le texte repart donc à l'Assemblée, non plus pour être débattu, mais pour être soumis au vote. Et là, coup de massue, le gouvernement, entre guillemets, engage sa responsabilité et sort le fameux article 49.3, le dernier qu'il pouvait utiliser jusqu'à fin juin, soit dit en passant, pour passer le texte sans vote, dénigrant ainsi le travail de ces 50 derniers jours de nos parlementaires et exprimant sa condescendance pour les très nombreux citoyens protestant dans la rue depuis quasiment 2 mois. Depuis, la colère est montée d'un cran. Des manifestations s'organisent spontanément, certaines actions s'intensifient. Les travailleuses et travailleurs de France en ont assez qu'on les prenne de haut. Pour nous parler d'actions concrètes, je reçois ce soir Aurélie, militante au sein de la Sociale Nantaise, et peut-être que Yves nous rejoindra. Lui, il participe à la collecte des déchets à Nantes et on verra s'il parvient à arriver à temps avant la fin de l'émission. Bonsoir Aurélie, bienvenue à Prune.
Bonsoir.
Tout d'abord, pour que l'on te situe bien, j'aimerais que tu puisses présenter le mouvement auquel tu appartiens, c'est-à-dire la Sociale Nantaise, qui a été montée spontanément contre cette réforme. Qui est-ce qui constitue ce collectif et pourquoi a-t-il été créé ?
Bah effectivement, il s'est créé contre la réforme des retraites. Il est composé de personnes très diverses. Donc déjà asyndical, enfin il n'y a pas.
On n'est pas forcément affilié à un syndicat à la Sociale Nantaise.
Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont affiliées à des syndicats, il y a beaucoup d'enseignants et parce que ça a été repris d'un collectif qu'ils avaient monté en 2019. Donc il y a beaucoup d'enseignants à la base et de personnes de l'éducation nationale, mais pas que. Il y a des gens comme moi qui ne sont pas de l'éducation nationale. Moi je viens de la formation professionnelle et actuellement je suis au chômage. Il y a des entrepreneurs de l'ESS, des intermittents du spectacle, et puis des gens qui ne sont pas des travailleurs, des retraités, des jeunes activistes notamment, voilà.
Donc on peut dire que c'est assez interprofessionnel, multifacette, multipartite.
Voilà.
Alors, la grève, on connaît, elle sert à montrer son désaccord à sa direction, qu'elle soit publique ou privée, pour qu'elle puisse à son tour faire pression sur le gouvernement. Mais le blocage, on le connaît moins et il n'est donc pas forcément toujours bien compris. Quel est le sentiment à vous, à la sociale nantaise, qui vous fait faire des blocages? Pourquoi bloquer? Quel but et dans quel objectif? Toi particulièrement, Aurélie, si tu ne veux pas t'expliquer.
Oui, parce que c'est
de,
ça.
De tout le monde.
La sociale nantaise, c'est pas non plus un, on n'a pas une définition pas homogène, très claire. Voilà, on n'est pas homogène. Et puis, pourquoi bloquer? Moi, notamment en ce moment, parce que une des façons de dire sa colère, c'est déjà de manifester, bon, mais ça, c'est pas suffisant, et surtout devant un gouvernement comme celui-là. Et ensuite, c'est de faire grève. Faire grève, quand on fait grève, soit effectivement, on est dans un secteur comme les éboueurs, notamment, où son action a vraiment un impact sur l'économie.
Un effet visible.
Voilà. Soit on fait grève, certes pour bloquer son secteur, mais aussi pour avoir le temps d'organiser d'autres choses et notamment d'organiser des blocages vers les secteurs qui gênent l'économie et donc qui pourraient faire changer les choses là-haut.
Donc
et puis après, il y a tous les gens comme moi qui ne peuvent pas faire grève puisqu'ils n'ont pas de travail. Et du coup, c'est un moyen...
Donc c'est un moyen de mobilisation.
C'est un moyen de mobilisation, oui.
Qui permet de lutter peut-être contre l'impuissance quand on voit qu'on n'est pas écouté, comme tu le disais dans les manifestations. Visiblement, ça n'est pas entendu par le gouvernement. Du coup, j'imagine que c'est parce que vous essayez de chercher d'autres moyens de vous faire entendre.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à la sociale nantaise, on est nombreux on a souvent fait des manifestations, des bloqués à la rigueur des lycées, mais... des blocages de l'économie. Ça a commencé, le premier blocage, c'était de bloquer le rond-point à Genvray.
Donc au pied du pont de Chevéret.
Au pied du pont de Chevéret, voilà. Et ça a été, alors moi celui-là, je n'ai pas participé, mais ça a été apparemment une expérience assez forte. Donc il y avait beaucoup de novices dans ceux
donc
qui
organisaient. Donc des gens qui n'avaient jamais été activistes, on va dire.
Voilà, qui n'avaient jamais... et en fait, ils ont... Il y a notamment eu dans ce blocage-là beaucoup de... C'était au début, donc les automobilistes étaient très plutôt contents, très
donc
ouverts.
Beaucoup d'échanges avec la population,
ouais.
qui prenaient finalement bien les choses, qui disaient « bon, vous nous embêtez un petit peu, voilà. Mais quelque part, on vous soutient ».
Voilà.
C'était un peu
maintenant,
ça.
Maintenant, c'est un petit peu plus dur, les blocages sur les ronds-points.
Oui, les choses évoluent. Forcément, les gens se fatiguent un petit peu. Et ce n'est pas facile de tenir une grève ou un blocage très, très longtemps. C'est un sacrifice financier, familial. Est-ce que toi, tu peux nous dire, par exemple, comment tu t'es organisée? Parce que, OK, tu ne travailles pas, mais tu as quand même un enfant. L'école de ton enfant fait grève. Alors, comment, toi, tu as pu t'organiser personnellement?
Sincèrement, si je n'avais pas été au chômage, je n'aurais pas pu donner autant de temps. Après, il y a certains collègues, mais au final, certaines personnes du collectif, qu'on fait des reconductibles. Moi, comment je m'organisais? Alors, ce qui est bien, c'est que les blocages, souvent, ça commence très tôt le matin. Donc, notamment, je pouvais y aller à 6h et puis revenir à 8h30 accompagner mon enfant à l'école.
Donc, c'était avant même le réveil,
ouais,
de ton enfant.
Voilà, et puis après j'ai fait là pour le coup par exemple, je m'arrête un petit peu parce que voilà, ça demande, c'est aussi très fatigant en fait les blocages.
Surtout s'ils sont matinaux.
Voilà, ils sont matinaux et puis après il y a des journées de manifestation, derrière il y a la manifestation, derrière on fait notre opération générale poubelle jaune.
On y reviendra dans un deuxième temps et puis il y a aussi
une assemblée générale tous les lundis soirs. À 17h30, où tout le monde est le bienvenu.
C'est ça, parce qu'il faut prendre quand même des décisions collectives. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça, à la volée.
Ouais. Mais c'est surtout que tout le monde, je le dis à ce micro, justement, j'invite tout le monde à venir le lundi. Par exemple, ce sera lundi prochain. Ah non, puisque c'est férié. Ce sera
c'est
mardi.
Le lundi de Pâques.
En général, voilà, c'est le lundi. Mais là, ce sera mardi à 17h30 à B17. Voilà, juste pour
donc,
échanger.
B17, c'est à la maison des syndicats.
Non,
B17, c'est pas très loin d'ici, à quelques pas de la place Talonsac.
Voilà, si vous
êtes nantais et nantaise.
Juste pour débattre et donner son avis et entendre aussi ce qui se fait, les actions à venir.
Merci Aurélie. Une petite pause musicale s'impose puisque c'est le milieu de notre entretien, mais on reste dans le même esprit puisque nous allons écouter ce très jeune artiste sud-africain, Mungaka, accompagné en featuring par sa grande sœur Sampa the Great sur le titre Rebel Time, en français Le Temps des Rebelles. Savourez et on se retrouve tout de suite après.
Ah, Rebel Time, Rebel Time, Rebel Time, Time. Ah, Rebel Time, Rebel Time. Way you like, but that don't mean you know about my life. You say I have no home, but I'm free to roam. It's that black boy joy here to console a broken world, the politics that keep a brother fucked around. Take the pound of flesh and leave nothing left, just an object in decay. I'm out here running out of days, but you have to recognize the love that should be televised on your screen, on your iPhone. Never realize that the spirit of mine will never be compromised.
Transparent, transparent, drunk you like a bad habit. This dang habit on that 2020. See that vision through, cut through. It's like the industry, see through business though. Empress got no clothes, it's the life you chose. It's the cost they tell, fuck the feeling fell. Fell from heaven past 11 o'clock, I held a nose. Slap a booty chick, make sure she can speak. Vernacular, when that all came to replace my soul, I let them know, we not gonna do this shit no more. This life a bull, and it's evident, I think it's irrelevant. That's the evidence I come through just to show off my eminence. And in my defense, I heard it from the grapevine.
That don't mean you know about my life. You say I have no hope, but I'm free to roam.
Vous venez d'écouter Rebel Time de Mungaka avec Sampa the Great en featuring. Nous retrouvons à présent Aurélie, militante au sein de la Sociale Nantaise, pour continuer à parler des blocages qui ont lieu dans la métropole nantaise depuis un mois. Aurélie, vous avez non seulement apporté votre soutien matinal au blocage, mais la Sociale Nantaise est aussi active sur les caisses de grève qui accordent un soutien non négligeable aux grévistes. Elle propose notamment des soirées ciné-débat pour les alimenter. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Je te tutoie, je te vouvoie, je ne sais plus.
Oui, donc au départ, la Sociale Nantaise, son nom vient de là d'ailleurs, puisqu'on a fait une première soirée débat. Où on a projeté le film La Sociale sur la création de la sécurité sociale.
Un film de Gilles Perret.
Voilà. Suivi d'un débat. Voilà.
Où on voit dans ce film d'ailleurs qu'un certain homme, Ambroise Croizat, ouvrier CGT, a mené ce combat pour créer la sécurité sociale. Et on voit l'importance des syndicats à cette époque,
ouais.
Donc juste après-guerre. Donc ça, c'était à la Manu, je crois.
Ça, c'était à la Manu il y a un mois, je crois. Voilà. On avait déjà donc fait une récolte pour les caisses de grève, sachant qu'en fait, on donne une partie. On a une caisse, les gens choisissent où ils veulent donner. on a une caisse locale qui va aux plus précaires de l'éducation nationale, c'est-à-dire les AED, donc les surveillants, et les AESH. Et les personnels du périscolaire en primaire. Voilà. Et après, il y a une caisse nationale qui s'appelle caisse-solidarité.fr. Donc là, qui est gérée par des syndiqués en région parisienne. Et c'est eux qui gèrent ensuite à qui ils le donnent. Voilà. Avec la caisse solidarité, il y a la contrainte, c'est qu'il faut avoir fait 2 jours consécutifs. Et voilà.
Deux jours consécutifs de grève. Et qu'il faut pouvoir le prouver pour pouvoir prétendre à être indemnisé par cette caisse de grève pour les jours, pour les jours de grève. Alors, tu disais que vous aviez passé la sociale à la Manu il y a un petit mois. Et il me semble que la semaine dernière, vous avez également passé un autre film à Pollen cette fois-ci.
À Pollen, avec le collectif Maquisard. Et on a passé, tu vas m'aider...
Un pays qui se tient sage.
Un pays qui se tient sage. De David Dufresne.
De David Dufresne, tout à fait. Donc, film qui, lui, dénonce plutôt les violences policières.
Les violences policières, notamment pendant les Gilets jaunes. Voilà.
Il a malheureusement fait très écho à Sainte-Soline. Depuis Sainte-Soline.
Bah, du coup, c'était juste après Sainte-Soline, donc ça tombait à pic.
Ouais, du coup, le débat a fait un petit peu parler les manifestants de Sainte-Soline suite à la projection de ce film. Donc les projections de ces films récoltent de l'argent pour les caisses de grève.
Voilà.
Alors, autre type d'opération symbolique menée par la sociale nantaise, l'opération Poubelle Jaune. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans le studio ont vu cette opération Poubelle Jaune.
À la préf.
Tout à fait, Aurélie va nous en parler.
on sait aussi, la sociale nantaise, on a donc... outre le premier blocage et puis à l'agent vrai, et puis les projections débat, on s'est aussi un peu illustré en bloquant les éboueurs, enfin en aidant à bloquer les éboueurs et les agents d'Alcea, l'incinérateur sur le quartier d'Elquier.
De Laitier, donc c'est Nantes-Est.
Nantes-Est. Et oui. Et du coup, dans le prolongement, après une manifestation, on s'est dit pourquoi ne pas symboliquement aller vider les poubelles d'un quartier populaire, donc Malakoff, pour les déposer devant un bâtiment, devant ceux qui méritent ces poubelles. Donc on a Donc au début, on est parti de Malakoff, on est allé à la région déposer
donc
ça.
Donc le choix d'un quartier populaire, c'est parce que c'est justement des barres d'immeubles, donc les poubelles sont plus nombreuses dans les quartiers populaires qu'ailleurs.
Voilà. Elles sont plus nombreuses, oui. Pardon. Et donc voilà, on est allé à la région. Et puis en fait, ça a été tellement facile. Et puis on était à vélo, on est tous à vélo.
Voilà, le principe, c'est écolo quand même. Hein. C'est à vélo, on déplace les poubelles jaunes essentiellement.
Voilà, c'est les éboueurs qui nous avaient dit ne prenez que les jaunes parce que dans les bleus, il peut y avoir des déchets coupants. Enfin, donc déjà, les jaunes, parfois, elles sont, à mon avis, il y a des bleus déguisés. Mais, donc on en met plein sur nos vélos. Il y en a qui ont des longs vélos à rallonge. Alors là, ils en ont une dizaine. Et puis on va en groupe,
en cortège,
on scande des trucs, c'est très très joyeux et ça a beaucoup de, enfin, les gens nous applaudissent, c'est très sympathique.
Je crois que la première fois vous n'avez pas forcément été bien reçu, vous avez été non seulement sous la pluie,
la pluie
du ciel, mais aussi une pluie de lacrymogène, me semble-t-il.
Voilà, en fait, au départ on voulait juste aller à la région et puis à la région ça nous a paru tellement facile qu'on s'est dit allez hop, on va à la préfecture.
Vous aviez un sacré stock alors.
On en a repris, on est repassé à Malakoff. et effectivement, la première fois, on a eu une pluie, on a pu quand même déposer nos poubelles. Et puis, on a eu une pluie de lacrymo. On a refait ça la semaine dernière, cette fois-ci directement à la préfecture. Et puis, on refera ça demain. On refait une opération, donc pour ceux qui veulent. À 15h, toujours à Place Rosa Park, donc à Malakoff. On prend des poubelles à Malakoff. Là, on fait quand même un petit passage à la région, parce que Morancel a fait un petit papier qui ne nous a pas tellement plu pour annuler le Big Bang de l'emploi. Donc, on ira à la préfecture.
Et alors pour finir, comme vous parliez du blocage que vous avez fait à Laitier, donc vous avez été pas mal en lien à la fois avec les agents de tri des incinérateurs, enfin de l'incinérateur de Nantes-Est et avec les éboueurs. Comment cette opération de poubelle, elle est perçue par ces personnes qui justement sont, dont c'est le métier, la gestion des déchets ?
Comme les habitants, pour le coup, très bien, parce qu'effectivement, le symbole de bloquer les éboueurs ou d'être autour des déchets, c'est quand même une symbolique assez forte. Donc, ils trouvent ça drôle, déjà. Et puis voilà, ils voient. Enfin, le fait déjà qu'on les ait aidés, même s'il y avait des grévistes qui s'auto-bloquaient, le fait qu'on soit là, ça a vraiment permis. Je pense, hein, si Yves avait été là, il l'aurait dit, je pense. Ça a permis de faire durer la grève, qui a quand même duré 3 semaines. Ce qui n'est pas évident pour eux. Hein. Quand vous faites la grève, vous êtes sur place avec vos collègues et vous ne pouvez pas bouger. Donc c'est long, c'est très long de faire la grève. Donc d'avoir des gens extérieurs, c'était fort pour tout le monde parce qu'on a pu passer beaucoup d'heures, parce que là vous avez le temps, à discuter avec entre plein de gens différents. On se croise dans nos vies, mais en tout cas, on n'a jamais le temps de parler aussi longtemps. Et franchement, j'arriverai pas à dire merci Macron, mais c'était très fort.
C'était une grande richesse.
Ça, ils ne l'enlèveront pas.
Merci beaucoup Aurélie, c'est malheureusement déjà la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à mes questions sur Prune. Je rappelle que tu as participé à des actions de blocage, de ramassage des déchets pendant près d'un mois pour montrer l'impact du mécontentement des travailleurs et travailleuses, et pas que, lorsqu'une réforme considérée par la population comme injuste est passée en force. Merci encore pour ton retour d'expérience. Même s'il faut reprendre des forces, la lutte n'est pas finie puisque le Conseil constitutionnel a été saisi 5 fois entre le 20 et le 23 mars dernier. Il étudiera juridiquement la conformité de cette loi à la Constitution, délibérera et rendra ses décisions le 14 avril prochain. Chères auditrices, chers auditeurs, vous cherchez un projet écolo et pacifique pour dire que vous non plus, vous n'êtes pas d'accord avec la manière de procéder de votre gouvernement ? Rendez-vous dès demain, après la manifestation, à 15h, place Rosa Parks, comme l'a dit Aurélie, à Malakoff, avec votre vélo pour transporter les poubelles jaunes des quartiers les plus peuplés vers la préfecture. Vous participerez au grand nettoyage de printemps contre la réforme des retraites, contre le 49-3 et contre les violences policières. Pour une sécurité sociale renforcée, pour une démocratie réelle et pour une écologie populaire. Et oui, les manifestantes et les manifestants sont loin d'être toutes et tous des ultra-violents.
Merci Perrine pour cet entretien et à Aurélie de la Sociale Nantaise d'être venue à nos micros. Big up à Yves qui n'est pas arrivé mais qui doit être sur la route. Donc voilà, et soutien à la grève des éboueurs qui est toujours en cours. Et tout de suite maintenant, on écoute le morceau d'Abrek de l'artiste Miss Rosa.
But come on, me, I'll make some noise. the people that I know will rise.
I got the feeling that my voice, is not heard yet.
C'était Dabrec de l'artiste Miss Rosa. Il est 18h52 sur Prune et tout de suite, écoutez la photo avec la chronique de Suvan.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
C'est une photo en portrait. En arrière-plan, dans sa partie supérieure, on distingue le mur d'un bâtiment. Au premier étage, des fenêtres éclairées depuis l'intérieur. Dehors, il n'y a plus ou pas encore de soleil, mais le jour éclaire naturellement le reste de la photo. Au premier plan, en bas, on voit une partie de la barrière de chantier, rouge et blanche, qui sert à délimiter les petits chantiers sur la voie publique, celles qui font un mètre de hauteur. Arrivant par la droite dans la photo et s'enfonçant par la gauche, suivant une ligne de fuite qui sort de la photo, un mur d'environ 1,70 m de hauteur. Au milieu de la photo, ce mur est ouvert. On voit un interphone sur la droite, ainsi que le bout d'une boîte aux lettres. La porte de cette ouverture ne la ferme pas. De part et d'autre de ce portillon, des personnes qui ont leurs mains agrippant et tirant un objet vers eux. Du même côté que la personne prenant la photo, au moins deux mains tiennent l'objet et deux autres se dirigent dessus. On voit une tête avec masque chirurgical et casquette noire de trois quarts arrière qui entre dans le champ de la photo. C'est la tête d'une des deux mains qui agrippe l'objet. De l'autre côté, en face de moi, puisque c'est moi le photographe finalement, spectatrice de la scène, une personne avec un manteau bleu, des bretelles rouges, d'un sac à dos assorti à ses lunettes. Elle est en partie cachée par la personne du même côté du mur qu'elle et qui agrippe l'objet. C'est un homme autour de 50 ans. Belle veste beige en laine, écharpe rayée, marron, jaune et bleu, paire de lunettes, petite barbe de quelques jours. Ce que lui et toutes les autres mains agrippent, c'est une poubelle couchée en travers, bloquant le passage par ce portillon. Cette photo date de jeudi dernier, prise lors du blocus du lycée des Bourdonnières contre la réforme des retraites à la levée du jour avant le début des cours. La première entrée principale, rue du même nom que le lycée, a été bloquée plus tôt et des élèves décident d'aller bloquer l'autre entrée principale. La photo date de ce moment-là. Le personnel administratif s'oppose à ce blocus, certains par la parole, en essayant d'argumenter sur l'irresponsabilité de l'action. C'est bien connu, les jeunes, quand elles font rien, c'est des glandus qui devraient faire quelque chose, et quand elles font quelque chose, c'est des irresponsables qui devraient rien faire, si ce n'est obéir au doigt et à l'œil des adultes. Sois jeune et tais-toi. Et puis on a aussi du personnel administratif qui s'oppose un peu plus vigoureusement au blocus, et spécifiquement le proviseur du lycée. C'est lui qui tente d'arracher la poubelle sur la photo. Et dans une photo précédente, on peut le voir ayant déjà retiré un sac poubelle et un bac. Il utilise aussi son téléphone pour filmer les jeunes ou les photojournalistes, comme moi. La raison de son opposition ferme, c'est, semble-t-il, un accord passé la veille ou tôt dans la matinée avec un syndicat de lycéens-lycéennes sur le fait de ne bloquer qu'une des deux entrées. Super deal, vous bloquez sans bloquer. Sauf que les élèves ne s'y sont pas trompés et sont allés bloquer la seconde entrée. En fait, son comportement, c'est surtout des manœuvres pour intimider les élèves, fort de la figure d'autorité qu'il représente. Et quand plus tard, dans la matinée, à cette même entrée, il tente encore d'arracher des poubelles de la main des élèves, après les avoir à nouveau filmées, une poubelle tombe sur sa cheville. C'est pour lui forcément un acte intentionnel d'un élève, contre lequel il ira porter plainte, le tenant pour seul responsable de l'entièreté du blocus et de ce qui s'y est passé. Là encore, au-delà du réel préjudice subi, il boitait déjà moitié moins 15 minutes plus tard quand même, et du risque de briser cet élève, dont il se moque très probablement, il s'agit surtout d'intimider tous les autres élèves, moins déterminés, et de les décourager à prendre part dans le futur à ce type de blocus. Une attitude puérile et abjecte, et loin de la notion de responsabilité que l'on peut attendre de la part d'un chef d'établissement, qui devrait chercher l'apaisement et le dialogue, plutôt qu'une confrontation avec des ados attisant énervement et provoquant des situations pouvant blesser sa cheville et égratigner ses phalanges. Voilà, entre autres, comment des adultes, censés accompagner la jeunesse dans leur parcours de vie, la traitent lorsqu'elle se mobilise pour son futur et ses conditions de vie. Merci.
Merci Suvan pour cette chronique. Auditeurs et auditrices, c'est la fin de Curiosité. Merci à toute l'équipe pour cette émission un peu chamboulée ce soir. On a beaucoup parlé des mobilisations contre la réforme des retraites. Petit rappel, demain, rendez-vous au Miroir d'eau à 10h pour une énième mobilisation. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net. Et nous, on vous laisse avec le Labo des Savoirs. Bonne soirée sur Prune.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h. Et en podcast sur prune.net.